La revue de presse internationale, tous mes vœux Camille Magnard.
Et bonne année à vous.
Et voilà, et on va fêter également la bonne année à tous nos auditeurs avec une nouvelle malheureusement moins joyeuse. La République démocratique du Congo ne répond plus. 4 jours après l'élection présidentielle de dimanche, le pays reste plongé dans la nuit médiatique et l'obscurité politique.
Pas facile de faire une revue de presse ce matin avec les journaux de Kinshasa, puisque pour la plupart, ils n'ont pas pu paraître en ligne depuis lundi, depuis que le réseau internet a été coupé par le gouvernement de RDC pour soi-disant éviter la propagation de faux résultats électoraux. Du coup, nous dit depuis Bruxelles l'éditorialiste Afrique de la Libre Belgique, Hubert Leclerc, la République démocratique du Congo prend de plus en plus les allures d'une île isolée du reste du monde. Pour ne rien arranger, la correspondante de Radio France Internationale à Kinshasa a vu son accréditation retirée. Les fréquences de la radio française sont brouillées et le même sort, apprenait-on hier, a été réservé à la chaîne Canal Congo Télévision financée par l'opposant Jean-Pierre Bemba. Silence, la majorité fait ses comptes, titre donc la Libre Afrique, qui voit dans ses atteintes à la liberté de la presse le signe que le pouvoir en place n'est peut-être pas disposé à respecter la vérité des urnes. La vérité des urnes, justement, elle est invoquée de toutes parts 4 jours après l'élection présidentielle et alors que les premiers résultats partiels ne devraient pas être publiés avant dimanche. À Kinshasa, hier, c'était haro sur la commission électorale appelé à justement donner la vérité des urnes, lit-on sur le site d'info africain CAS Info basé au Canada. Il relaie l'appel solennel de l'Union africaine pour que soient proclamés des résultats, je cite, conformes à la volonté exprimée par le peuple congolais. Mais quelle volonté, quelle vérité des urnes? Pour le principal candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, la chose est entendue, nous dit CAS Info. La vérité que le pouvoir en place ne veut pas accepter, c'est celle de l'alternance politique, du rejet par les électeurs dimanche du candidat Emmanuel Chadari qui avait été désigné par le président sortant Joseph Kabila pour lui succéder. Il est minuit moins 5 avant que la RDC ne se transforme en Rwanda bis, avertit encore Hubert Leclerc dans la Libre Belgique. Des millions de Congolais dimanche ont été privés de vote par la désorganisation générale du scrutin et pourtant une large majorité d'entre eux veut le changement de régime. Après 18 années de kabilisme, synonyme de pauvreté, d'insécurité, de gabegie et d'enrichissement d'une petite bande d'individus. Alors oui, l'affrontement semble inévitable entre cette clique prête à tout pour durer et un peuple fatigué de supporter les pires vilainies, prophétise l'éditorialiste bruxellois, avant de conclure ainsi, personne ne veut d'un nouveau massacre en Afrique et la communauté internationale a les armes pour imposer que la vérité, toujours elle, sorte des urnes.
Et puis, la Chine, Camille, fait parler d'elle ce matin parce qu'elle a réussi à faire allunir pour la première fois un engin spatial sur la face cachée de la Lune, et derrière cette prouesse technologique, les indicateurs ne sont pas bons pour la démographie chinoise.
Et d'ailleurs, assez étonnamment, c'est le quotidien d'État en anglais Global Times qui nous alerte sur le sujet. Il cite plusieurs démographes selon qui l'année 2018 se termine sur une chute drastique des naissances en Chine. Environ 2 millions de bébés nés en moins qu'en 2017, soit en dessous des 15 millions de naissances par an en tout pour la Chine. Pour ce géant démographique qui affiche une population d'1,386 milliard d'habitants, c'est très très faible hein, comme natalité, du jamais vu depuis 2000, et d'autant plus inquiétant, poursuit le South China Morning Post, que depuis 3 années, Pékin a mis fin à sa politique de l'enfant unique. Les couples chinois sont laissés libres de faire 2 enfants, mais du coup, ils n'en font souvent même plus un seul. Et la tendance ne semble pas prête à s'inverser pour la Chine, à en croire le magazine américain Newsweek. Une chute des naissances aussi brutale que celle constatée en 2018, c'est probablement le début d'un phénomène plus durable, analyse un économiste chinois. La population de Chine va diminuer, elle va continuer le faire. La pyramide des âges va devenir de plus en plus bancale avec des défis colossaux qui vont se poser pour une économie chinoise déjà frappée par le vieillissement de sa population. À lire le dossier que la BBC Asie consacrait au sujet tout récemment, on comprend que la Chine en fait paye les effets différés de cette politique de l'enfant unique. Les jeunes adultes en âge de procréer aujourd'hui sont nés en pleine période de limitation des naissances. Ils ont grandi en enfant unique, habitués à être au centre de l'attention. Ils ont intégré en grandissant les valeurs de réussite professionnelle, la carrière avant tout de la Chine communiste devenue capitaliste. Et ils rechignent à présent à mettre tout ça au second plan pour devenir à leur tour des parents. Pourtant, ils sont soumis à une propagande intense de la part des autorités pour les inciter à faire des bébés. Sinon pour eux, au moins pour le bien, comprennent-ils, de la nation chinoise. Mais toutes ces campagnes font naître, sinon des vocations parentales, en tout cas une quantité impressionnante de moqueries et de détournements sur les réseaux sociaux chinois.
Enfin, la presse américaine, Camille, essaye toujours d'y voir un peu plus clair dans le chaos déclenché en Syrie par Donald Trump quand il a annoncé fin décembre le retrait des troupes américaines.
Et ce plan de retrait de Donald Trump est vraiment trop opaque, constate ce matin l'éditorial du Washington Post. Et pourtant, il y a deux semaines, la chose semblait claire. Le président actait la défaite de Daesh en Syrie. Il annonçait le lancement donc du retrait des 2000 soldats américains déployés en Syrie. Il assurait à leurs proches qu'ils allaient bientôt les revoir à la maison. Aujourd'hui, de tout cela, eh bien, il ne reste pas grand-chose, constate le Post, à part la zizanie semée sur le terrain syrien. Depuis deux semaines, la Turquie a fait mine de tirer profit du retrait américain pour lancer une grande offensive militaire sur les territoires tenus par les combattants kurdes, qui étaient jusque-là soutenus par les Marines. Les Kurdes ont dû faire appel pour trouver un nouvel allié à l'armée syrienne. Les cartes sont complètement rebattues par les annonces de Trump, qui semble tout de même, pour une fois, avoir compris l'étendue de son erreur stratégique. Désormais, nous explique Al Jazeera, le président américain se garde bien de fixer le moindre calendrier pour son retrait militaire de Syrie. Il insiste d'ailleurs sur le fait qu'il n'a jamais donné d'échéance précise. Et hier, il a dit que, bien sûr, la priorité, c'était de protéger les Kurdes dans le nord de la Syrie. Il y a donc autour de lui des conseillers qui ont réussi à lui faire entendre raison, se félicite le Washington Post, qui cite en particulier l'influence sur Donald Trump du sénateur républicain Lindsey Graham. Mais Trump reste Trump, conclut le Middle East Eye. Hier, il a tout de même déclaré que les Iraniens pouvaient bien faire ce qu'ils voulaient en Syrie, que les soldats américains ne resteraient pas dans ce pays déchiré par la guerre, qu'il a résumé avec ces mots : la Syrie, c'est du sable et de la mort.
Merci beaucoup, Camille Magnard.